بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ الإسلام نكونتينيو إتيدييه دونك les différentes qualités que le jeûneur doit réunir dans sa journée de jeûne, dans son mois de Ramadan de façon générale, pour pouvoir vivre sa foi pleinement. Hier, on avait parlé donc de l'éloignement total des péchés, protection du regard, protection de la langue, protection des oreilles, mais également protection du cœur. Et on va plutôt insister sur le cœur aujourd'hui. On a un chapitre qui s'appelle « Salamatul Qulubi » le fait d'avoir le cœur toujours pur, c'est-à-dire de protéger son cœur contre toute mauvaise pensée ou tout ce qui est sentiment négatif, et protéger également sa langue. Parce qu'en général, c'est la langue qui prend le relais lorsqu'il y a une pensée qui traverse le cœur. L'auteur cite ces hadiths qu'on va voir, et il met, on va dire, ce chapitre dans le premier tiers de son livre, parce que selon lui, c'est une condition quasiment obligatoire, impérative, que pour que le jeûneur passe une journée de jeûne correcte et que son somme atteigne son objectif, il faut que son cœur soit pur, et dans ce cœur, il n'y ait ni jalousie, ni rancune. C'est-à-dire, c'est un travail très compliqué à faire sur soi-même pour purifier notre cœur de tout sentiment négatif à l'égard de notre prochain. Hadith Abu Huraira radiallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala laysa siyam min al-akli wa shurbi. Le jeûne ne se limite pas à l'abstinence de la nourriture et de la boisson. Ça, on a déjà vu ce principe. Innama siyamu, le hadith est un peu long. Jeûner, c'est également abandonner tout ce qui est futile et tout ce qui est grossièreté et des paroles qui n'appartiennent pas aux croyants. Et le prophète donne ce conseil, ça c'est un point qui est connu. Fa'in sa'abaka ahadun. Et si quelqu'un t'insulte, est-ce que c'est quelque chose de facile ça? Vous êtes en voiture, vous roulez tranquillement et quelqu'un estime par exemple que vous roulez trop doucement, c'est un exemple, hein, et il vous double et il vous insulte, espèce de je sais pas quoi et tout. Qu'est-ce qui se passe de ton cœur immédiatement? Le sang il fait un tour, il fait un tawaf. Il fait un tour et on a envie de klaxonner la personne ou faire un geste, les pires des gestes, voilà, répondre, parce que c'est dans la nature humaine. Non. Fa'in sa'abaka ahadun. Et bien sûr, si quelqu'un t'insulte à tort, c'est pas que toi tu as causé du tort et que on te fait des reproches, non, c'est que la personne est injuste, te dit quelque chose de déplacé. Wa jahila alayka. Et que quelqu'un, ben, il dise quelque chose par ignorance sur toi. Fa'kul inni sa'im. Dis, je suis en état de jeûne. C'est la réponse du jeûneur, de dire tout simplement que je jeûne. Donc, je ne répondrai pas à tes provocations. Maintenant, une compréhension un peu plus approfondie. Quand on doit dire je suis en état de jeûne, ça ne veut pas dire que là, je suis en état de jeûne, mais attends, il reste 5 jours. Après Eid, on va régler tout ça. Là, wallah, c'est une tarbiya, c'est une éducation, c'est une tazkiya, c'est une purification. À travers ce jeûne, Allah Rabbul Izzah permet à l'homme de s'éduquer, de se réformer et de voir les côtés, on va dire, négatifs de nos pensées, de nos gestuels, de notre mode de fonctionnement. Et on essaie d'avoir une position parfaite durant ce jeûne. Et du coup, ben, tout ce qui dépasse là, tous ces erreurs, ces péchés, ces dérapages de langage, ainsi de suite, ben, on essaie de les bloquer. Mais le jeûneur intelligent, c'est celui qui voit qu'est-ce que j'arrive à stopper dans mon comportement durant ce mois béni, ben je dois garder cette même logique et cette même réaction après le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on parle d'une réforme intensive. On a 30 jours d'entraînement intensif pour garder le cap et avancer de cette façon. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam avait parlé du mois béni. Il dit que le jeûne de ce mois, وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ, ainsi que le jeûne de 3 jours tous les mois, et cela enlève tout ce qui est négatif du cœur de l'homme. C'est-à-dire, si on veut avoir un cœur qui se purifie, un cœur qui n'est pas habité par les mauvaises pensées, la colère, on a oublié de citer ça tout à l'heure, la colère, la jalousie et l'envie et ainsi de suite, tout ce qui est négatif, ben, le jeûne, on le fait correctement durant le mois béni, mais ensuite on garde la constance avec 3 jeûnes par mois. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une piste scientifique aussi sur le jeûne du 13, 14, 15, mais on n'a pas forcément besoin d'une preuve scientifique. Si Al-Habib alayhi salat wa salam nous en informe, sami'na wa ta'na, on prend et on applique, et s'il le met en application, c'est que c'est wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. C'est une révélation d'Allah et Allah connaît mieux ce qui est bon pour nous. Il y a une piste scientifique qui dit que durant ces 3 jours, donc les jours de pleine lune, l'activité sanguine est plus forte, d'accord ? Le sang circule de façon plus intense dans le corps, Allahu alam. Et on sait que, et là on sort du côté scientifique, que Shaitan circule dans le corps de l'homme comme le sang. C'est-à-dire qu'il y a une plus grosse emprise satanique sur l'être humain durant ces jours et le fait de jeûner, ça permet de le canaliser. Wallahu alam. C'est une piste mi-médical, mi-tazkiya, spirituel, mais nous, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement profitable si on peut le faire de façon constante. On continue. L'auteur maintenant avance en parlant de kamal ou iman sa'imin, et il parle de la perfection de la foi du jeûneur qui ne pourra être atteinte qu'à partir du moment où il y a salamati sudurihim. Que le cœur soit pur, c'est-à-dire faire en sorte que dans ton cœur, non, il n'y ait de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, rien, 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 pour quiconque. Un cœur pur. Même si on te fait du tort, je suis en état de jeûne. Donc, je ne réponds pas et je ne t'en veux pas. T'inquiète pas, je suis, comme on dit, je suis zen. Là. C'est-à-dire, c'est pas que je suis zen dans ce sens-là, mais mon cœur est avec Allah. Plus, c'est mieux. Mon cœur est avec Allah. Donc, toi, tu es créature d'Allah, tu as des devoirs envers lui. Toi aussi, tu dois jeûner comme moi. Bah, si toi, tu fais du tort, tu m'as insulté, ainsi de suite, c'est en toi et Allah. Mais moi, je ne rentre pas dans ton jeu. Si toi, tu as eu un dérapage verbal avec moi, tu m'as dit des choses inappropriées, c'est en toi et Allah. Mais moi, je ne vais pas chuter parce que tu as chuté. C'est clair comme ça? Donc, moi, mon cœur est avec Allah durant ces jours. Salam atu sudurihim wa al sinatim. Et la langue, bien sûr. Ne jamais dire de choses mauvaises en état de jeûne contre Ikhwan ibn Mu'min, contre ses frères, et fallait sa fille Rolomirin, ou Hassan, ou pas de jalousie, ni de méchanceté, ni de mauvaise pensée. Voilà, sa fille Al-Zinadim Riba, ou Namim, ou Kadib. Et de notre bouche, donc la langue, ne doit pas être porteuse de Riba, ni médisance. Namima, colporté. Et ça, il se fut une époque où c'était. D'accord, on disait que c'était les dames qui aimaient colporter. Maintenant, les messieurs aussi, avec les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, on entend quelque chose, on diffuse, et ainsi de suite, et c'est mauvais. Donc, tout ce qui est colporter des nouvelles, qui crée des fitnas, mensonges, ainsi de suite. Donc, voilà, condition sine qua non pour Kamal ou Iman et Sa'im. Et que dans notre cœur doit être habité que par Al-Muhabba, l'amour, la Muhabba pour son prochain. D'accord? C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu ne connais pas. Le frère, je ne connais pas son nom ni son prénom, mais il prie à côté de nous, donc, intimement. Et dans mon cœur, j'ai la muhabba pour lui. Et s'il a besoin de moi, je dois répondre présent. S'il a de la difficulté, je dois lui demander, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que ça ne va pas dans le sens de l'orientation de notre société. Dans notre société, on a tendance à être replié sur soi-même. L'individualisme prend la place. Même si on nous donne l'impression d'être très ouvert sur les autres à travers les médias et les réseaux sociaux, les amis Facebook, ainsi de suite, dans la vraie vie, ben, en fait, chacun est extrêmement égoïste. On est égocentrique, on est nombriliste, chacun regarde ses intérêts et on doit essayer de casser ça. Parce que ce qu'on est en train de faire, nous sommes la seule Ummah qui jeûne encore. Nous sommes la seule Ummah qui jeûne vraiment comme Allah l'avait demandé. Donc, on doit dépasser les autres de le comportement avec une pureté de cœur à l'attention des croyants, des non-croyants, mais vraiment avoir les sentiments les plus nobles dans nos cœurs. Wal khair, wal rahma, wal ikram, la générosité, la pitié pour son prochain, de la clémence, ainsi de suite. Et la langue du mu'min doit se distinguer par al-kalimatu nafi'a. Que des paroles bénéfiques. والأقوال المفيدة, c'est un synonyme, les paroles qui vont aider son prochain, والدعوات الصادقة, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand on évacue mensonges, médisances, mauvaises paroles, colportées, on enlève ça, ben on garde que des paroles qui sont positives. Et après, l'auteur développe par un long verset, والذين جاءوا من بعدهم, mais ça va être un peu long de développer l'histoire des sahaba, l'exemple des sahaba qui disaient pour leur prochain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, demander pardon pour leurs frères en islam, ceux qui les ont précédés dans la foi, et demander à Allah de ne pas qu'il n'y ait jamais dans leur cœur n'importe quel sentiment négatif contre ceux qui ont la foi, et implorer Allah de garder donc ce cœur pur. Et lorsqu'Allah t'accepte pour avoir ce cœur pur et la langue d'une certaine façon pure également, qu'il n'y ait rien de négatif à l'encontre de ton prochain, sache que ben, tu es sur le droit chemin. Et on va s'arrêter avec une ou deux citations. Et là, on reste dans ce point. Iyaz ibn Muawiyah, rahimahullah, il disait, « Kana afdaluhum indahum » Parmi les pieux prédécesseurs, on considérait les meilleurs parmi eux, aslamahum suduran wa aqalluhum riba. Pour nous, les meilleurs parmi nous, c'était ceux qui avaient le cœur le plus pur, qui n'avaient, comme on a dit, aucune méchanceté, aucune mauvaise parole, rien de négatif, et ceux qui parlaient le moins sur le prochain, le moins de ribat possible. Et Soufyan ibn Dinar, connu. Soufyan ibn Dinar fait partie des personnalités du monde musulman. Il dit, j'ai dit à Abi, alors là je ne sais pas ce que c'est Abi Bashir, et Abi Bashir faisait partie des compagnons de Ali. S'il était un compagnon de Ali, c'était un tabi'in. Barakallahu fik. Akhbirni an a'mali man kana qablana. Explique-moi comment étaient les actions de ceux qui étaient avant nous. Qablana, donc ce sont les sahaba. Kanu, il répond, kanu ya'maluna yasiran. Leurs actions, c'était minime. Ils faisaient des actions, pas en quantité. Mais ils yu'jiruna kathiran. Ils obtenaient beaucoup de récompenses de la part d'Allah. Faqultu wa lima dhalik. Il dit, pourquoi donc? Il dit, li salamati suduri. Parce qu'ils faisaient des actions, on va dire, modérées, mais ils avaient un cœur rempli d'amour pour le prochain. Rien de négatif, pas de jalousie, pas de méchanceté, pas de mauvaise pensée, rien, rien. L'esprit, il avance droit et il n'y a rien qui va de travers. Voilà donc, il dit que « Wa Ramadan fursa dhahabiyya ». Le mois de Ramadan, c'est une période en or. Et il dit « Wa hibatun ilahiyya », un cadeau divin qui permet à l'homme de se reconsidérer, de se remettre en question et d'essayer de se réformer. Autant par le contrôle de notre appétit, de ce qu'on mange ou mange pas, de ce qu'on boit, de ce qu'on boit pas, mais également contrôler son comportement, ses paroles, ses pensées et sa façon d'agir avec son prochain. Parce que, malheureusement, parmi les jeûneurs, il y a des personnes qui se focalisent uniquement sur les masa'il fiqhiyya, la jurisprudence, ne pas manger, ne pas boire, pas de relations intimes, sans se soucier de ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, comportement, et ainsi de suite. Et le prophète a dit que certains jeûneurs, ils auront comme récompense, ils ne vivent leur journée de jeûne, si ce n'est pas la faim et la soif. Tout comme certaines personnes prient, mais ils n'ont de retour de cette prière que la fatigue et le manque de sommeil. Parce que ces personnes ont négligé les autres points qu'on a cités, donc, en amont, et qui était l'objectif de notre intervention. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique que quand un mu'min a le cœur pur, ça c'est un peu plus complexe à comprendre, quand tu as ce cœur pur, c'est que ton iman billah est très fort. Et dans le iman billah, dans la foi en Allah, ce n'est pas uniquement tu dis qu'il y a un seul Dieu et tu l'adores, ça c'est la base, mais parmi tout ce qui constitue al-iman billah, c'est entre autres al-rida, être satisfait de tout ce qu'Allah a décidé pour toi. Je vous assure, ce sont des paroles faciles à dire, mais pas évidentes à mettre en application. C'est une acceptation du destin. Ar-rida biqadarillah, tu acceptes, tu es satisfait de tout ce qu'Allah a décrété pour toi. Tu ne te plains pas. Tu ne remets pas en question ton destin. Tu ne regardes pas ton prochain, tu dis oui, mais pourquoi lui il a réussi? Pourquoi lui il a eu ce travail? Pourquoi lui il s'est marié avant moi? Pourquoi? Non. ça ne veut pas dire que tu te laisses aller. Hein, toujours, au grand pas du destin, il y a un juste milieu. Ce n'est pas que tu restes assis dans ton fauteuil, tu dis « travail, va venir devant ma porte ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein, c'est comme l'oiseau qui part, le ventre vide, qui revient le ventre plein. Mais cet oiseau, les mahadithines expliquent, cet oiseau fait cet effort aussi. Ce n'est pas qu'il reste dans son nid, il attend que son ventre se remplisse tout seul. Il quitte son nid, il fait l'effort, il vole. Il va à tel endroit, il rentre le ventre plein. L'oiseau, là, il n'a pas un contrat, lui. Il n'a pas sa carte de fidélité avec le clé à Carrefour ou autre chose, qu'il sait qu'il aura des graines dans telle grande surface. Non, il va où Allah l'emmène, mais il y va. Donc le mu'min, il fait son effort, et ce qui arrive, il a la conviction que c'est ce qu'Allah a décrété pour moi. Et on peut traduire ce sentiment aussi par du qana'a. Le qana'a, là, la satisfaction. Il dit que plus un mu'min va accepter sa vie, va accepter ce qu'Allah a décidé pour lui, sa situation, ben il aura le cœur pur. Parce que avoir le cœur pur, ça veut dire que tu es en paix avec toi-même. C'est une expression un peu à l'occidental, ça. Hein? Être en paix avec soi-même, ce qui veut dire très clairement que tu t'acceptes. Tu t'acceptes, c'est-à-dire tu acceptes ce qu'Allah a décrété pour toi. Et donc du moment que tu acceptes ce qu'Allah a décrété pour toi, donc tu ne seras pas jaloux de ton prochain. Tu n'en voudras pas ton prochain, et ainsi de suite. Donc, et ça démarre de rida, l'acceptation de ce qu'Allah a décrété. Là, tu auras le cœur pur, et quand tu as le cœur pur, tu n'en veux à personne. Et là, c'est pour ça qu'il dit, kullama kana al-'abdu ashadd ridan kana qalbuhu aslam. Plus ton cœur accepte ce qu'Allah a décrété, plus ton cœur sera apaisé. Et il dit que les thamarat, les profits du cœur pur sont exceptionnels. Rahatun fi dunya wa tama'nina. Dans ce monde, la personne qui a ce cœur pur et le cœur satisfait du décret divin, c'est une personne qui aura le cœur toujours apaisé. Parce que vous avez la jalousie, c'est une maladie spirituelle, mais c'est également comme un feu qui brûle dans ton cœur et qui fait le tour et qui te brûle à chaque fois que tu vois quelqu'un qui t'a dépassé. Cette jalousie-là, cette maladie-là, elle va te tirer par le bas. Et elle va te faire mal. Car quand elle tient un gros loto, ah, mon ventre, il fait mal. Comme il dit en créole, le ventre, il fait mal. Ça t'affecte. Ah, tu le vois, ah, il s'est marié, et moi, je suis célibataire, ça t'affecte. Il a eu un travail, ça t'affecte. Il était ainsi de suite. C'est-à-dire que si tu vois, c'est terrible, dans une journée, imagine, tu vois 50 personnes qui ont eu des bienfaits, ça va t'affecter. Tu auras reçu 50 coups de poignard. Mais c'est pas eux qui te donnent des coups de poignard, c'est toi-même qui te poignardes. Parce que tu n'arrives pas à intégrer que Muhammad, Ismaïl, Ishaq, Ibrahim, ce sont des créatures d'Allah. Leur destin est dans les mains d'Allah. Leur risque est dans les mains d'Allah. Allah leur a donné quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Mais peut-être qu'il t'a donné à toi ce qu'eux, ils n'ont pas eu. Regarde les ni'amats qu'il t'a accordé. C'est-à-dire que ce mu'min qui va avoir malheureusement cette jalousie, il s'autodétruit. Et il devient l'ennemi de tout le monde. Il devient parano, il devient mytho, il devient tout ce que vous voulez. Il n'arrive plus à vivre en société. Et on n'arrive pas à fréquenter quelqu'un de jaloux. Après, il y avait un cher qui expliquait ça. Il donnait pas mal de conseils. Il dit que si dans votre cercle d'amis, on prend un peu plus de temps, excusez-moi. Il dit dans votre cercle d'amis, si vous connaissez que quelqu'un est jaloux, ben ne le fréquentez plus. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens, on garde rancune, mais prends des distances. Parce que si quelqu'un a le cœur malade, il a cette maladie spirituelle qui est la jalousie, hein, c'est mauvais pour lui, ça brûle ses bonnes actions, ainsi de suite. Mais ça peut être mauvais pour toi aussi parce que il va t'en vouloir et il va, ben, tu peux même être victime de son mauvais regard. Hein, ce qu'on appelle en arabe le ayn, le hasad, bien sûr, la jalousie. Et la jalousie se traduit par le ayn, très souvent, le mauvais regard. Le regard envieux et qui peut causer beaucoup de tort. Et le regard envieux peut même tuer. Hadith prophétique. D'accord? C'est un extrême. Il y a des gens comme ça qui ont le cœur rempli de jalousie et qui ont le regard même envieux. D'accord? Ben, ces personnes-là, ben, masakin, vous faites droit, ils sont malades. C'est une maladie qui envahit leur cœur, et cette maladie, elle prend place de leur cœur à partir du moment où il n'y a pas le ridha bil qada et wal qadr. À partir du moment où tu n'acceptes pas le destin d'Allah, ben cette maladie s'installe. Mais pour accepter le destin d'Allah, il faut croire un peu correctement en Allah aussi. faut être conscient qu'Allah est généreux, clément, miséricordieux, et qu'Allah n'agit pas de façon injuste avec personne. Allah est al-latif, le bienveillant. Si Allah accorde à telle personne, c'est qu'il y a un grand khair pour lui. Si Allah n'accorde pas à telle personne, c'est qu'Allah veut le priver de certaines choses pour lui en donner plus là-haut, dans l'au-delà. Accepter le décret divin, ça te permet de t'accepter et ça te permet d'accepter les autres aussi. C'est bien dit tout ça, hein? Alhamdulillah. Mais ça t'apporte vraiment un cœur apaisé et la tama'nina, et ça, ça n'a pas de prix. Les gens cherchent la paix du cœur avec des médicaments. Il y en a qui vont dire, moi je prends du Lexomil, il dit, moi je prends du Stilnox, l'autre je prends je ne sais pas quoi. Après, il y en a qui vont prendre des plantes, enfin, tant que c'est des plantes qu'on voit, d'accord, tant qu'on ne les... D'accord. C'est-à-dire, on cherche tout pour avoir, pour relâcher, d'accord, pour être moins stressé, moins en colère, moins nerveux, et ainsi de suite. Mais si tu as cette acceptation du destin, ben, tu es zen. Le terme qu'on ne voulait pas employer tout à l'heure, ben, c'est le terme. On est zen, on est tranquille, apaisé, parce qu'on s'en remet à Allah, Azza wa Jal. Qu'Allah, Rabbul Azza, dans sa clémence, nous donne la possibilité de comprendre ces paroles. On termine avec une citation, l'histoire de Zayd ibn Aslam. Il dit, on a rendu visite à Abi Dujana, radiyallahu anhu, sahaba. Wa huwa maridun, il était gravement malade. Il était donc, il agonisait. Et on a parlé à ce sahaba, et il dit, ben, qu'est-ce qui te rend, il avait l'air content. Il dit, mais qu'est-ce qui te rend content? Il a dit que ma min amali shay'un, il a dit, il n'y a pas dans mes actions quelque chose qui m'apporte plus de garantie que ces deux choses-là. Je vais vous les citer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu allais confiant alors que, en général, avant de mourir, une personne peut être angoissée. Il dit que dans mes actions, il y a deux qualités et ça m'apporte beaucoup d'apaisement. Kuntula takallamu fima la ya'nini. De toute ma vie, je n'ai jamais parlé de quelque chose qui ne me concernait pas. Et ça, ce n'est pas évident. De nos jours, on veut commenter tout. On est comme des commentateurs de football. Quelque chose qui concerne la famille Amada, la famille Mohamed, la famille de Maulana, ça ne te concerne pas. Non, on a besoin de toute graine de sel. Ya Rajul, Oskot, tais-toi. Ça ne concerne pas. Si ça te concerne, toi directement, on essaie de trouver une solution. Mais ça, c'est une mauvaise habitude de la société. Tant chez les femmes, maintenant ça devient chez les messieurs aussi, de parler de ce qui ne nous concerne pas. Juste pour faire la pire des choses, c'est prendre ton frère et en faire de la conversation à table. Achi, il est malade, il a des problèmes, il a des soucis, sa femme l'a quitté, ses enfants ne parlent plus avec lui, mais il fait pitié miskin. Il ne mérite pas d'être tout simplement, d'être réduit à un sujet de conversation à table. Et de nos jours, nous on refait le monde. Dans nos repas familiales, on refait le monde, on parle de tout le monde, mais ce n'est pas du tout pour les aider. C'est pas juste pour commenter. Et ça, c'est grave. Ça, c'est une maladie spirituelle. Il lui dit, de toute ma vie, j'ai jamais prononcé une parole concernant quelque chose qui ne me concerne. Wal-ukhra, fakana qalbi al-muslimina salima. Mon cœur a toujours été rempli d'amour pour mon prochain, pour mon frère, mes frères en islam. Il n'y a jamais eu un sentiment négatif à l'attention, à l'encontre de mon prochain. Qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de développer ses qualités intérieures. Tout ça, c'est la thèse qu'il y a. Et il y a des pistes, hein, il y a des doigts. Les doigts, ce sont des doigts masnoun qu'on connaît, qu'on essaie de retenir et de lire régulièrement. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Il y a Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha'. Ou Allah, je veux une protection contre un cœur qui ne se soumet pas, qui ne se remplit pas de dévotion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya celui qui détient les cœurs, garde mon cœur ferme de la foi. Allahumma ja'alli fi qalbi nura. Oh Allah, mets de la lumière dans mon cœur. Ce sont des doigts, remèdes pour les maladies spirituelles, pour qu'Allah mette de la lumière, pour qu'Allah garde le cœur dans le droit chemin, que le cœur soit toujours rempli de khushu' et de dévotion, qu'Allah nous accepte et nous permet. Et le prophète avait cité, nous avait enseigné un doua aussi, ça c'était Abu Bakr al-Siddiq. C'est quand Abu Bakr al-Siddiq pose une question au prophète sallam, ben il faut bien écouter la réponse. Parce qu'Abu Bakr al-Siddiq ne posait pas beaucoup de questions. Et parmi les points qu'il nous a permis d'apprendre, c'est quoi? Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Le doigt qu'on lit quand? Imran, quand est-ce qu'on lit ce doigt? Il connaît le doigt, mais il n'arrive pas à le situer. Eh, le doigt du tashahud de l'akhir. Le doigt du tashahud avant de faire salam alaykum wa rahmatullah, ce doigt Allahumma ni dhalamtu nafsi, ça c'est un doigt important ça. Ça, ça a été enseigné au Prophète, ça a été enseigné à Abu Bakr al-Siddiq par le Prophète. Et le Prophète donnait à Abu Bakr ce qui était meilleur. Donc, c'est un doigt, bien sûr, à mettre en pratique, à le lire. Et Abu Bakr al-Siddiq avait demandé au Prophète d'Allah, Mourni bi kalimatin aquluhunna idha asbahtu wa idha amsayt, au Prophète d'Allah, enseigne-moi des paroles que je peux lire. Idha asbahtu, c'est quoi? Le matin, wa idha amsaytu, le soir. Donc ça, ce genre de doua, je dois l'avoir dans mes applications, dans mes captures d'écran. Le matin, je me réveille avec ça. Le soir, je me couche avec ça. On va voir qu'est-ce que ça apporte. Qul. Le présent dit de dire Qul illahumma fatir as-samawati wal ard. Verset du Coran. Alimal ghaibi wa shahada. Verset. Rabba kulli shay'in wa malika. Là, on passe à des doua. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi, une protection contre tout le mal qui peut y avoir en moi, wa sharri shaytani wa shirki, et contre le mal des diables et de ses associés. C'est-à-dire, là on a la protection contre shaytan, mais également contre moi-même. Des fois on se dit que là on est dans Ramadan, les shayatines sont enchaînés, mais il y a plein de choses qui passent dans ma tête encore. Parce que les shayatines sont enchaînés, pas tous, hein, les pires. Donc il y a encore des petits qui travaillent. Donc ils peuvent t'influencer, si tu es faible et petit, ben ils te travaillent. Et il y a ton nafs, Amaratun Bissou, lui il est là, il est toujours là. Donc là on doit une protection générale contre tout ça. Et قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ. Ou Abu Bakr lit ce doua lorsque tu te réveilles, lorsque c'est le matin, pas lorsque tu te réveilles, lorsque c'est le matin, lorsque c'est le soir, mais également lorsque tu vas au lit, lorsque tu vas te coucher. D'accord? Donc, on essaie de retenir ces doigts. À l'occasion, on mettra par écrit, Inch'Allah. Ce sont des doigts qui guérissent les cœurs et on a grandement besoin qu'Allah nous permette d'avoir un cœur pur, la langue pure et d'avoir un haut niveau de rida bi qadarillah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursaleen, alhamdulillahi rabbil alameen.